Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Le petit sorcier de la pluie de Karl Lorak, aux éditions Pastel. Karl Lorak est né en 1960 à Mons, en Belgique. C'est un écrivain belge, donc de langue française. Il est principalement auteur de recueils de poésie et de très nombreux albums jeunesse pour tous les âges, mis en image par divers illustrateurs. Karl Lorak a beaucoup voyagé et toujours, il rapporte de ses voyages une histoire à raconter aux enfants. « Je change de pays presque dans chacun de mes livres pour donner le goût du voyage que j'ai eu. Et à chaque fois que je voyage, je reviens avec une histoire dans mes bagages, » dit-il. Dans « Le petit sorcier de la pluie », l'auteur et l'illustratrice Anne-Catherine de Boyle situe cette fois leur histoire en Australie, dans le pays aborigène, là où la pluie tarde à tomber. Quand il vint au monde, ce bébé était si petit et si remuant que Kuyuma, sa maman, pensa l'appeler « Fleur qui danse ». Son papa, l'homme médecine, le cueillit dans les bras de maman et dit « Ce joli garçon a des yeux de rêveur, des yeux en forme de croissant, brillant comme l'astre de la nuit. Si on le nommait plutôt « Rêve de lune », maman Kuyuma et papa Papounia discutèrent longtemps. Ils n'arrivaient pas à se décider. Dès que le garçon eut l'âge de marcher, il voulut aller trop vite. Il courait et tombait. Il s'amusait à escalader le dos de l'émeu et dégringolait. Les femmes du clan répétaient « Le fils de Kuyuma et de Papounia tombe toujours sans prévenir. Il est comme la pluie. » C'est ainsi que les gens qui chassent dans le pays finirent par appeler l'enfant Petite pluie. Si bien qu'un soir, ses parents lui dirent « Dors bien, petite pluie, ne tombe pas du nuage de tes rêves. » Quand il commença à comprendre les mots, petite pluie fut très content de porter ce nom-là. La pluie, dans ce pays, est la bienvenue. Sans elle, rien ne pousse. Sans elle, rien ne vit. Or, cette année-là, la pluie ne venait pas. Une grande sécheresse sévissait. Les chiens dingos aboyaient au soleil. Les gens du clan passaient des heures à regarder le ciel. Mais pas un nuage ne se montrait. Le père de Petite Pluie a bien quelques idées. Danser et invoquer les hommes nuages. D'autres aussi tentent de faire tomber la pluie, en appelant les ancêtres, en chassant le soleil. Mais rien n'y fait. Petite Pluie prend alors son courage à deux mains et il part chercher l'eau sur terre. Je ne vous en dirai pas plus, mais bien sûr, on peut supposer que Petite Pluie trouvera la pluie et la ramènera dans son village. L'histoire est belle, construite comme un conte traditionnel. Les illustrations de Catherine de Boyle sont tout à fait originales. Des dessins très réalistes de personnages alternent avec, sur des doubles pages, de grands tableaux à la manière des peintres aborigènes. L'ensemble donne une atmosphère tout à fait particulière et très esthétique. À lire à partir de 6-7 ans, cet album se trouve sur le réseau des bibliothèques de l'agglomération troyenne.
Le plus bel été du monde, de Delphine Perret, pour le texte et les illustrations. Aux éditions Les Fourmis Rouges. Voici un livre peu ordinaire, qui s'adresse à tous à partir de 5 ans, puisqu'il s'agit de transmission entre générations, à la faveur d'un été à la campagne, dans la maison des grands-parents. Transmission par la découverte ou redécouverte d'émotions, de sensations évoquées dans ce bel album plein de lumière et de douce nostalgie, où mère et fils partagent des moments de complicité simples, mais qui deviendront inoubliable.
Écoute, c'est quoi? Un pivert.
L'abeille est toute poilue. Et le hanneton a l'air d'avoir de gros sourcils. Oh, j'ai peur des vipères. Et moi, des frelons. J'aime pas les orties. Moi, c'est les chardons. Ah, j'ai trouvé un scarabée tout sec sur le chemin. Oh, un gros. Oui, tiens, en parfait état. Regarde, avec tous ces petits poils de pâte bien peignés. Qu'est-ce que tu fais? Je sauve une abeille. Mais tiens, tends-lui la cuillère, qu'elle s'accroche. Tu m'apportes ce que tu as cueilli? Oui, c'est tout. J'en ai un peu mangé. Des dialogues particulièrement courts rythment les illustrations où des paysages traités à l'aquarelle alternent avec des dessins à l'encre noire représentant des insectes, des feuilles ou des fleurs. Et le pinceau de l'autrice vibre comme sous l'effet d'une émotion forte, comme vibre aussi l'air dans la torpeur de l'été. Mais elle suspend parfois son trait pour laisser place à un grand blanc dans des pages presque vierges où parfois le motif se dissout, comme si elle voulait donner l'impression que réapparaissent ou disparaissent des images fondues dans le tissu des souvenirs. Une incitation à rembobiner en quelque sorte le film, peut-être un peu altéré, de nos propres souvenirs d'enfance au cœur de la nature, dans une maison, à la campagne. Et peut-être pour projeter nos émotions personnelles. On peut aller au grenier? Oh, tu sais, ça fait beaucoup de poussière. Oh, s'il te plaît, j'ai envie de voir des coffres et des squelettes. Il y a juste quelques cartons de vaisselle et des revues de mode qui moisissent. Et des rats ? Il y a des rats ? Dans la maison familiale qui regorge de trésors, mais aussi de souvenirs que la mère veut partager avec son fils, subsistent pour longtemps les traces d'émotions vécues. Jouets anciens retrouvés au grenier, portraits de famille, sont l'occasion pour l'autrice d'évoquer en filigrane les liens familiaux, la vie des disparus, et toujours sans trop parler, de la même manière que sont évoqués avec pudeur ces instants fugaces mais précieux. Waouh, c'est beau! Oui, ça a toujours été mon endroit préféré ici, juste sur cette pierre. Mère et fils se comprennent encore mieux qu'à demi-mot, et le temps passe, avec douceur, dans l'émerveillement toujours renouvelé devant tant de trouvailles. Puis vient le moment où cette solitude à deux appelle une pause. Ah, j'ai froid. Viens, viens là. Ils arrivent quand, Lotta et Pierre? J'ai envie de voir des gens. Demain, et mamie sera là aussi. Et vient s'ajouter la joie de retrouver d'autres membres de la famille qui les rejoignent pour partager d'autres complicités. Tu sais ce que j'ai trouvé dans la cour?
Non.
Une crotte de renard. Oh! Et on peut dire aux autres que c'est moi qui l'ai trouvée?
Hé! Qu'est-ce qui se passe?
Nina a délivré un papillon d'une toile d'araignée et après, Joachim y voulait voir et il m'a poussé et sans faire exprès, j'ai écrasé le papillon.
J'ai envie qu'on soit tout seul. Ils repartent dans 2 jours.
Mère et fils éprouvent tous deux le besoin de reprendre le fil de leurs échanges presque tacites, de repartir au dehors sans bruit, pour trouver, cueillir, observer, ramasser ou simplement s'allonger dans l'herbe. Cette belle immersion au cœur de la nature et aussi du passé familial aura fait grandir l'enfant, qui à la fin de l'histoire aura même franchi une autre étape, bien pragmatique, dans ses apprentissages. Il saura enfin lacer ses souliers. Tout un symbole pour qui veut s'élancer sur les chemins de la vie. Ce livre nous raconte nous-mêmes aussi, dans un imaginaire collectif, avec nos souvenirs et nos émotions d'enfance, tellement proches de ce qu'évoque Delphine Perret. Tous ces menus instants ont la saveur de trésor qu'a su nous faire partager l'autrice. Ils nourrissent notre mémoire pour toujours, car nous avons tous vécu, n'est-ce pas, le plus bel été du monde.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.